Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgeorges.
Et oui, comme chaque lundi, en début d'après-midi, en direct du studio 167, Continent Science, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, entretien sur Léonard Euler avec Xavier Viennot et Martin Andler, puis Espace Critique avec les chroniqueuses Ariane Poulanzas et Lazare Caladbari. Et tout de suite, la chronique animale. Je retiens aujourd'hui pour cette chronique animale une fourmi terrible, Vasmania auropunctata. Elle est appelée aussi fourmi électrique en Nouvelle-Calédonie, tant sa piqûre est irritante. Cette petite fourmi, l'ouvrière, ne dépasse que 1,2 mm, originaire d'Amérique tropicale, a été introduite involontairement par l'homme en 1972. La prolifération de cette petite fourmi ne s'explique pas seulement par son extrême agressivité. Curieusement, sur l'ensemble de la Grande Terre, sur l'île, les populations de fourmis électriques fonctionnent comme une seule et même colonie. Les Wasmania, issus de nids différents, se reconnaissent donc et perdent toute forme d'agressivité envers les membres de leur propre espèce. Alors que, confrontés à des fourmis du genre Phaidol, l'attaque est immédiate et conduit rapidement à la mort. Donc, cette faculté leur permet d'augmenter considérablement leur population et de prendre aussi un avantage numérique sur les autres espèces de la guilde des fourmis. L'unicolonialité, c'est ainsi qu'on désigne cette affaire de s'entendre parfaitement, est ainsi l'une des clés de la prolifération de certaines espèces envahissantes. En effet, alors que la plupart des fourmis ne reconnaissent et n'acceptent encore une fois que celles de leur propre nid, les espèces unicoloniales tolèrent des individus issus d'autres nids, parfois placés à plus de 400 km de distance les uns des autres et originaires de milieux écologiques différents. Cette caractéristique leur permet d'augmenter considérablement leur population. Au cours de confrontations individuelles, les fourmis issues de nids différents n'utilisent ni leur aiguillon, encore une fois, ni leur venin face à des fourmis de leur espèce. Rapidement, les ouvrières fraternisent et après 5 minutes, il n'est plus possible de distinguer les fourmis originaires de deux groupes différents. C'est bien sûr par un processus de reconnaissance chimique donc que les Wasmania se distinguent entre elles et donc perdent toute forme d'agressivité. En quelque sorte, le succès des Wasmania réside dans une sorte de, comment dire, sororité myrmécologique, bien comprise. Mais comme à l'ordinaire, je laisserai à chacun le soin de tirer la morale de cette histoire naturelle. Xavier Viennot, bonjour.
Bonjour.
Martin Andler, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va peut-être commencer avec vous, Martin Andler, puisque vous êtes au titre de la Société mathématique de France, c'est bien ça, oui. Dans le groupe qui organisait depuis maintenant 3 ans, c'est la 3e année, ces conférences grand public à la BNF.
Exactement, oui, nous avons commencé donc en 2005, début 2005. Il s'agit donc, comme vous l'avez dit, de conférences grand public. C'est une co-organisation entre la Société mathématique de France et la BNF. Et donc, quand on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, on a pensé que de particulariser l'importance des textes mathématiques dans l'activité mathématique. Les textes sont beaucoup plus importants et ont une longévité beaucoup plus importante dans notre activité que dans celle d'autres sciences. On travaille beaucoup dans la bibliothèque, sur des textes qui sont éventuellement assez anciens et qui ont une pertinence dans la recherche aujourd'hui, et que ça pourrait être intéressant dans le cadre de la bibliothèque, la BN, de montrer comment un mathématicien contemporain pouvait partir d'un texte ancien. Ça peut être 3 siècles, c'est ça dont on va parler aujourd'hui.
Bien sûr.
Ça peut être 60, 70 ans, ça peut être un peu moins, peu importe. Et de montrer comment il y a un cheminement qui va de ce texte jusqu'à la recherche contemporaine.
Alors aujourd'hui, bah, celui qui est à l'honneur, et en plus c'est une date anniversaire. Il s'agit de l'immense, alors je sais pas les adjectifs, on peut les multiplier, l'extraordinaire, l'immense, le gigantesque, le fabuleux, Euler, mathématicien helvétique, mais qui courut l'Europe dans les grandes académies, et ce qui vous a, vous, arrêté, donc, dans votre conférence, Xavier Viennot, c'est une lettre d'Euler à une figure intéressante, on pourrait dire tout de suite qui il est d'ailleurs, c'est, en tout cas il a été entre autres choses mathématicien et aussi diplomate, il s'agit de Goldbach. C'est bien cette lettre.
C'est bien cette lettre qui est perdue dans l'immensité de la correspondance de l'air, 3000 lettres, dont certaines font 10 pages, au moins des correspondances entre les mathématiciens de ce siècle-là, et 80 volumes de à peu près 40 000 pages, et c'est cette lettre que j'avais choisie, qui n'est pas encore publié dans les œuvres complètes, une lettre à son ami, à grand ami, pendant 35 ans, ils ont correspondu, Christian Goldbach, comme on dit, diplomate, et pendant 15 ans, il a parcouru l'Europe dans sa jeunesse, pour, en apprenant toutes les langues, et ensuite, il a été secrétaire de l'Académie de Saint-Pétersbourg, et membre du gouvernement russe, et très fin politique, puisque malgré les coups d'État ou les révolutions de palais, les tsars successifs l'ont gardé, et donc c'est... Et ce Goldbach, en plus, était mathématicien. Certains disaient qu'il était amateur, mais non, il était vraiment professionnel et spécialiste de théorie des nombres. La théorie des nombres, c'est...
Eh oui, théorie des nombres. Et il a laissé, comme pierre de touche, d'une certaine manière, bah, une conjecture, ou comme on va le voir après, qui n'est toujours pas résolue. Alors, on se tourne à nouveau vers l'immense Euler, qu'on a pu appeler aussi le Mozart des mathématiques.
Tout à fait, Mozart. Ah. D'ailleurs, Mozart, ses œuvres sont classées, il y a Köchel, numéro tant et tant, et chez Euler, c'est E120, E846, c'est l'index, il y a un index Enestrom, et dans ses, il y a eu à peu près 800 ou 900 articles, et dans ses indices, il y en a 40 livres parmi ces 800 ou 500 mémoires. Oui. C'est une vie extraordinaire.
Et pourtant, c'était les éditions complètes sous la houlette des
Helvètes. Suisse, oui. L'Académie suisse qui a entrepris pour le 200e anniversaire de sa naissance, en collaboration avec les Russes, parce que Euler a une vie partagée entre Berlin, Saint-Pétersbourg et Bâle, et donc c'était scientifiques, bien avant l'Europe politique. Mais donc c'est l'Académie suisse qui a comme envisagé avec les Russes de publier les œuvres complètes pour le 200e anniversaire.
En 1911, et nous sommes
au 300e anniversaire, et l'œuvre complète n'est pas encore finie d'être publiée. 74 volumes ont été publiés, et il reste encore 6 de correspondance. Il y a 10 volumes pour la correspondance, et j'avais choisi justement cette lettre, elle n'est pas encore publiée et accessible au grand public, bien qu'on la trouve sur, je l'ai trouvée sur Internet, dans un livre qui est numérisé en 1850 par Fuss, qui est un arrière-petit-fils de l'air, et qui avait, disons, toute la correspondance, étant fils du... Et toute la correspondance était à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et cette lettre d'une page, j'y reviens, elle symbolise toute l'ouverture, disons, la combinatoire actuelle. Elle est symbolisée dans cette lettre.
On va y venir. Il est intarissable, hein, Martin Adler. Hein.
Il est intarissable.
Oui, je suis un peu
Non, mais intarissable, c'est Euler. Alors, je ne sais pas si sur tous les sujets, il est comme ça. Mais en tout cas, bah, c'est bien, hein, cette passion. En plus, de toute façon,
la passion,
il l'emporte, ce monsieur. Hein, monsieur Euler. Alors, justement, il a travaillé... pour, on va dire, certains monarques éclairés. Frédéric II de Prusse, bien sûr.
Oui, Frédéric II
voilà. Prusse. Et puis Catherine la Grande.
Catherine la Grande, voilà. Les deux grands monarques éclairés.
Alors, il va partir chez Catherine II, où il va être très très bien, d'ailleurs. Il va se sentir tout le temps très très bien. Et il va répondre à nouveau aux sirènes.
Au début, il y a deux séjours à Saint-Pétersbourg.
Oui, c'est ça.
Catherine II, c'est le deuxième séjour.
C'est ça.
À 20 ans, il quitte la Suisse.
Voilà.
Hein, et il part pour l'académie que vient de créer Pierre le Grand. Donc, il est décédé juste avant le moment de l'Académie démarrer. Ensuite, c'est l'impératrice Catherine Ier qui prend les rênes de l'Académie.
Oui. Hein,
et au moment où Euler arrive à Saint-Pétersbourg, invité par les deux frères Bernoulli, l'impératrice décède. Et donc, à ce moment-là, l'avenir de l'Académie est très incertain. Et donc, il y aura un moment difficile. Catherine II viendra plus tard.
Oui, On peut dire un petit mot, d'ailleurs, biographique. Vous avez cité les deux Bernoulli, qui sont donc une dynastie.
C'est une dynastie, les Bernoulli. C'est
très célèbre. Suisse, gigantesque. Et le père de Heller avait été formé par un Bernoulli.
Par Jacques Bernoulli. Le père de Heller avait été formé par Jacques Bernoulli, qui était le plus ancien, peut-être, de la dynastie.
Et Heller a été formé aussi par un Bernoulli.
Par le frère de Jacques et Jean Bernoulli, donc.
C'est compliqué, la dynastie des Bernoulli.
Ils sont deux frères, Jacques et Jean.
Puis ils sont disputés.
Jean était terrible.
Ils sont engueulés comme du
Jean était considéré qu'il était le meilleur mathématicien au monde. Et quand Newton, juste avant lui, c'était l'heure de Newton, Leibniz. Et donc quand ces deux grands géants, ces princes des mathématiques se sont retirés, c'est Jean Bernoulli qui est devenu le prince des mathématiques. Et il a eu deux fils, Daniel et Nicolas. Et donc le tsar l'avait invité, Jean Bernoulli, mais il ne voulait pas se déplacer. Donc à sa place, il a envoyé les deux fils. Il n'y avait qu'un poste, donc ils ont habilement négocié pour que c'était tout ou rien, zéro ou deux. Donc les deux sont allés là-bas, et Euler était copain avec eux. Et Euler avait reçu des leçons particulières. Enfin, pas des leçons particulières, Jean Bernoulli était trop pris. Et donc Jean Bernoulli a dit, il avait Euler avec 15 ou 16 ans, et son père voulait qu'il soit pasteur, donc en cachette. Il apprenait les mathématiques, il allait voir Jean. Jean lui donnait des livres difficiles à lire, et Euler, il avait droit, tous les samedis après-midi, à une leçon, disons, à l'explication de texte. Et Euler disait, c'est la meilleure façon d'apprendre les mathématiques.
Alors, pour revenir au va-et-vient entre ces deux, entre ces deux résidences d'Euler à Saint-Pétersbourg, dans cette ville septentrionale, il va donc passer par l'Académie de Berlin.
Après, au début, il a 20 ans et je crois qu'il passe après une quinzaine d'années dans la première académie. Et il ira à Berlin parce qu'à cause du changement de régime politique, la situation devient difficile pour les étrangers, d'origine allemande notamment, parce que la Russie à cette époque-là, les tsars voulaient ouvrir à l'Europe des Lumières, mais il y avait des réticences parmi les Russes. Et au moment de changement de régime, les Allemands n'étaient pas trouvés. Euler, donc, c'était une des raisons, il y en avait d'autres.
En tout cas, il retournera avec plaisir à Saint-Pétersbourg.
Après avoir 25 ans chez l'Académie Prusse, il reviendra à Saint-Pétersbourg. Et là, il aura la période la plus florissante de sa vie.
C'est ça.
Parce qu'à 59 ans, il revient à Saint-Pétersbourg et il en est à la moitié de sa production scientifique.
Ouais. Là, il a été, juste pour clore, il a été déçu, la mort de Maupertuis, de ne pas être nommé président de cette académie. Alors, Euler, il rédige évidemment latin, en français. Sa correspondance est... c'est très souvent en allemand.
Très souvent en allemand.
Oui. Et puis, on va le trouver évidemment en mathématiques. Là, c'est énorme. On va le trouver en physique. On va même le trouver en philosophie.
En philosophie aussi. Voilà. Les lettres à une princesse d'Allemagne. Voilà. Il a même, on sait qu'il a écrit à Gans également.
La nièce du roi de Prusse. Alors, dans le désordre, encore une fois. On dit que c'était, là encore, réponse courte, parce qu'on a trop de sujets à aborder, Xavier Villeneuve, on dit que c'était d'abord un extraordinaire calculateur.
Ah, c'était un prodigieux calculateur, puisque même à la fin de sa vie, puisqu'il a perdu les deux yeux suite à des infections, les 7 derniers de sa vie, il faisait tous les calculs dans sa tête, mentalement. Il faisait des calculs, et il fonçait, disons, à cette époque-là, les calculs n'étaient pas tellement définis, il faisait des choses infinies, des choses qui n'étaient pas légales, il faisait des sommations jusqu'à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il n'y a pas de limite à ça, mais il faisait des choses qui n'étaient pas encore bien définies et qui prennent tout son sens maintenant, à l'époque contemporaine. Ces calculs qui ont été très critiqués, ensuite il y a eu... Et donc après, maintenant, ces calculs sont tout à fait valides. Et il aurait été, je pense, extrêmement heureux à l'ère des ordinateurs et de Maple et tous ces logiciels de calcul. Il faisait ça à la main, quoi. Et en astronomie, les calculs étaient fondamentaux. Il fallait vraiment faire... Donc c'était vraiment un très grand calculateur.
Alors évidemment, il a laissé son nom à beaucoup d'objets mathématiques.
Plein, il y a plein de trucs. Il y a des nombres de l'air, des polynômes de l'air.
De l'air, relation de l'air, équation de l'air, formule de l'air, constante de l'air, droite de l'air, angle de l'air, cercle de l'air, ainsi de suite.
Plein.
On pourrait continuer longtemps. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, mais là, vraiment, encore de ce point de vue, il force l'admiration, c'est qu'il travaille en physique. Tous les domaines. Il travaille en astronomie.
En astronomie. Beaucoup, énormément.
Oui. Et jusqu'à la fin, il va être passionné par la trajectoire d'Uranus qui vient d'être découverte. Alors on le voit, ce qui est intéressant en physique aussi, il a une très grande admiration pour Newton, bien évidemment.
Mais il ne suit pas complètement. En fait, ce n'est pas un disciple, disons, nubilé à suivre tout ce que dit Newton.
L'optique et la nature de la lumière.
La nature de la lumière, il opte pour la nature vibratoire de la lumière.
Ondulatoire.
ondulatoire, oui, ondulatoire, que la lumière est une sorte d'onde, hein, comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des vagues, et la lumière c'est pareil. Mais à cette époque-là, non, Newton disait que c'était des petits grains de matière.
Corpusculaire, c'était la théorie.
Corpusculaire. Et il y avait juste Huygens avant qui avait dit aussi que c'était des vibrations. Donc le débat vibration, particule ou onde a duré des siècles. Même maintenant, après c'est la physique moderne qui a dit, mais c'est les deux à la fois. Tout le monde a raison.
Newton, la mécanique quantique, là, voilà, encore une fois. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on le voit, par exemple, se préoccuper de phénomènes alors qui sont à cheval entre le théorique ou le mathématique, voire l'astronomique, et le technique. Il a des lettres magnifiques sur le calcul de la longitude, où il finit par parler des montres, par exemple. Et on sait très bien, Cook, par exemple, disait que ses meilleurs amis, puisqu'il n'avait pas il n'avait pas pris le parti du calcul de la longitude dans ses grands voyages, ses circumnavigations, le dit Cook, il avait pris le parti des montres. Et il disait que c'était ses meilleurs amis. Et là encore, les propos pour une histoire du calcul de la longitude, ou les lettres consacrées à ça dans la correspondance avec une princesse d'Allemagne, sont extraordinaires. Et pas seulement. Hein. Il a répondu aussi à des demandes expresses de réalisation technique.
Tout à fait. Le roi Frédéric II lui demandait absolument plein de choses, de mettre à niveau les canaux. Il voulait des jets d'eau. Le roi voulait des jets d'eau aussi hauts que ceux de Versailles, c'est-à-dire 30 mètres de haut. À l'époque, 30 mètres avec des tuyaux en bois. Donc il fallait qu'il fasse toute la théorie de l'hydraulique. Donc il faisait non seulement la théorie, les équations primaires à l'hydraulique, et puis en plus, il le réalisait. C'était un ingénieur. Il y avait l'exemple de la turbine. Il a mis les plans d'une turbine hydraulique. Et un ingénieur au XXe siècle a construit la turbine selon les plans de l'air. Et le rendement est presque maximum. C'était un ingénieur. Et j'ai appris aussi que dans les archives russes, maintenant que l'ouverture de, disons, la chute du mur de l'Est, on voit mieux la vie de l'air à Saint-Pétersbourg. Et il faisait les observations astronomiques lui-même. C'était aussi un observateur. C'est non seulement il calculait les déviations des planètes, et il y avait même un prix, les Anglais ont mis un prix pour bien connaître les déviations de la Lune. Bah, c'est trop compliqué, les équations sont trop compliquées, on ne peut pas les résoudre. Il y avait un prix pour pouvoir mieux naviguer en mer, comme vous disiez, les montres, les explorateurs, et Cook. Et ce prix, disons, eh bien, il a fait la théorie qui a permis à Maillard d'avoir le prix, mais il était décédé, c'est sa épouse, sa veuve qui a eu une part du prix, mais Euler donc a contribué à l'époque, à améliorer la navigation. C'était...
Là encore, on a presque envie de faire un blanc de radio, comme on dit, hein, de rester sans voix, parce que champ magnétique, hydrodynamique, vous l'avez dit, optique, nature, ondulatoire de la lumière, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui,
la musique.
Et ben voilà.
La musique.
Oui, le Mozart.
Ah oui, c'était le Mozart des maths. Dès le début, il a fait un livre sur la musique.
24 ans,
il a fait. Fantastique, il a proposé une autre, d'autres gammes que la gamme pentatonique. Et Bach, c'était la musique moderne. À cette époque-là, c'est l'époque de... C'est Bach, c'est Vivaldi, c'est Mozart, c'est le siècle de... Il avait un livre entier sur la musique. Alors, les mathématiciens trouvaient que c'était trop musical, et les musiciens trouvaient qu'il y avait trop de mathématiques. Mais bien introduit aussi, c'est une répétition dans la gamme avec le nombre 3, le nombre 5. Il y a des dessins, on voit des mathématiques apparaître, circulairement, ouais. Autour d'un... C'est absolument fabuleux, quoi. Enfin, c'était l'homme universel, et alors c'est... Et même en mathématiques, il faisait toutes les branches des mathématiques. Et d'habitude, un mathématicien, on sait... Quels sont ses amours? Euler, on ne peut pas savoir. Il faisait tout. Aussi. On ne peut pas savoir. Il y a un style, il y a un phénomène Euler, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il préférait. Il faisait tout.
Vous l'avez découvert quand, dans votre itinéraire académique, on va dire?
Depuis l'enfance, on entend parler de tout, de notation de l'air, des polynômes de l'air, tout ça. Mais mon domaine, c'est la combinatoire, c'est les mathématiques finies. Donc là, il y a beaucoup de choses de l'air qui étaient, au fond, on peut le considérer comme le père de la combinatoire. Donc il y a beaucoup de choses de l'air et j'ai été amené, comme tout le monde, à lire. Bon, il y a des théorèmes, des choses, mais je n'ai jamais été dans le texte original. Et c'est en préparant cette conférence... pour la BNF et organisée avec la SMF, que ben, j'ai été amené là, sérieusement à aller lire dans le texte. Bon, je ne lis pas le latin, je ne lis pas l'allemand. Hein, le russe, je lis un peu le russe, mais j'ai montré une lettre russe et un collègue russe a dit « mais c'est du russe ancien, je peux pas... » Mais ce que je cherchais, c'était les choses combinatoires, les équations, les séries infinies, etc. Et donc là, je n'ai lu que les... On voit des nombres, des équations, et là, on comprend tout. La lettre de Goldbach, dont je parlais, tout est en allemand, en plus du patois, un peu de l'allemand de Berne, mais il suffit de lire... Les lignes, les équations, et on comprend tout. Une fois qu'on est dans le domaine, on comprend, on le lit. Et donc,
Les combinatoriciens...
Martin Andler, oui.
Pardon. Les combinatoriciens ont des... Il va nous en parler certainement, des nombres qu'ils identifient parfaitement. Les nombres, on va parler des nombres dits de Catalan, et quand ils voient un tel nombre apparaître, tout de suite, il y a des petites lumières rouges qui s'allument dans leur cerveau. Oui, ils se disent, c'est de ça qu'il
tout
s'agit.
Tout à fait. En lisant Euler, moi, tout à coup, j'ai vu apparaître le nombre 1, 3, 5, 17, 155. J'ai travaillé là-dessus dans ma jeunesse, au début de ma recherche, sur le nombre de Génoki. Génoki, c'est fin du 19e. Quand j'ai vu ça dans Euler, je dis, mais jamais personne ne m'a dit que Euler avait... Il était là-dedans. J'ai été stupéfait en lisant, en feuilletant à toute vitesse sur Internet des milliers de pages en latin. Quand j'ai vu ce nombre-là, ça m'a sauté aux yeux.
Il en tape sur la table, hein, avec son enthousiasme mathématicien. C'est formidable, ça. Alors, avant qu'on arrive au nombre de Catalan, il y a des choses plus simples pour lesquelles il s'est fait connaître, qui, au dire de certains mathématiciens, d'ailleurs, sont parmi l'une des plus belles, pas la plus belle, mais l'une des plus belles formules. Elle concerne les polyèdres.
Alors... Ah, c'est une belle formule. Elle est belle, elle est simple. Hein, les enfants peuvent la comprendre et elle ouvre vraiment un nouveau domaine. C'est la formule, prenez un cube. Hein, un cube.
Prenons
le cube. Vous le voyez, ce cube.
Le plus simple des polyèdres.
Les enfants jouent avec des cubes.
Bon, convexe. Bon.
Oh non, un cube, non, convexe, c'est peut-être trop compliqué. D'accord, là, je m'adresse aux enfants. Bon, aux enfants, prenez un cube.
Prenons un cube.
Bon, il y a des sommets, là, ça pique, là, hein, là où ça pique. Il y en a combien? Il y en a 8. Bon, il y a des arêtes. Si vous glissez le doigt le long des... Hein, ça, une arête, c'est comme une lame de couteau. Puis il y a des faces, là, c'est plat. Bon, il y a combien? Donc, il y a 8 sommets, il y a 6 faces et il y a 12 arêtes. Mm-hmm. Alors, si je fais le nombre de sommets, 8, moins le nombre d'arêtes, 12, plus le nombre de faces, 6, ça fait 2. Bon, 2. Et alors? Alors, prenez d'autres polyèdres. Eh bien, vous faites la même chose, ça sera toujours 2. Alors là, c'était extraordinaire, parce que c'est la géométrie, disons... Euler a introduit une nouvelle géométrie, la stéréométrie, il appelait ça. Parce qu'avant, il y avait les Grecs, c'était la géométrie des angles, des mesures, etc. Et là, c'était un nouveau domaine, ça s'appelle un invariant, cette chose-là. Il a introduit un nouveau domaine, et qui est très vivant actuellement, c'est la topologie combinatoire. Hein, les figures, on les déforme. Non, c'est... Alors, il y avait des trous dans la démonstration, tout ça, parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas ce que c'était qu'un polyèdre. On ne savait même pas ce que c'était qu'une arête. Il a fallu qu'il mette un mot à Cyrus, un mot latin, pour désigner le mot arête.
Oui, parce qu'avec nous, ça marche bien pour les symboles. Hein. Sommet S, arête A.
Voilà.
Et
F pour face.
Et F, face. Donc,
d'ailleurs, sur le timbre commémoratif du 300e anniversaire, il y a cette formule-là. Il y a le polyèdre et cette formule-là sur le timbre et sur le cachet de l'enveloppe premier jour qui est paru la semaine dernière par la Poste Suisse. C'est cette formule qui symbolise tout. Et cette formule réapparaît à l'heure actuelle. Ces polyèdres réapparaissent sous une autre forme.
Xavier Viennot, on pourrait peut-être aborder aussi le célèbre problème des ponts de Königsberg, qui fut la capitale de la Prusse, et problème des ponts de Königsberg auquel le Grand Euler répondit par la négative.
Par la négative.
Alors,
c'était Königsberg, donc, au Moyen-Âge, les gens de Königsberg aimaient bien se promener dans la ville. Il y a une rivière qui traverse la ville, et il y a deux îles, et il y a 7 ponts qui relient les îles et la terre ferme, et... Le problème qui était posé à Euler, c'était est-ce qu'on peut, en partant d'un point de la ville, se balader, faire tous les ponts, en passant une et une seule fois par les ponts et en revenant à son point de départ? Ou autre problème, partir d'un endroit de la ville, aller à un autre endroit de la ville qui n'est pas le même que le point de départ, et puis passer une et une seule fois par tous les ponts. Euler trouvait ça, ce problème un peu bizarre, ça sortait des mathématiques usuelles, et ils appelaient ça la géométrie de position. Au fond, c'était une nouvelle géométrie qui rejoint un peu cette nouvelle géométrie des polyèdres. Alors, Euler a répondu par la négative, c'était pas possible. Alors, tout de suite, il a généralisé avec autant d'îles qu'on voulait, etc. Et cet article est célèbre parce que c'est c'est l'article fondateur de ce qu'on appelle la théorie des graphes. Hein, les graphes, vous avez des points, vous avez des arêtes qui les relient, puis est-ce qu'on peut se balader, etc. Donc, il y a toute une théorie qui, d'ailleurs, maintenant intervient aussi en physique, théorie, etc. C'est une théorie qui est vivante à l'heure actuelle et qui fait partie de ce qu'on appelle la combinatoire plurielle. J'aime bien ce mot, combinatoire plurielle, parce qu'il y a plein d'aspects, de facettes de la combinatoire. Il y a la plurielle, l'énumérative, bijective, algébrique, quantique et même magique.
Vous êtes dans quel domaine, vous, Martin Andler, par rapport à ça?
Alors, mon domaine, c'est la théorie des représentations des groupes de Lie, mais qui, ça n'est pas indépendant de la combinatoire, parce qu'il y a un certain type de groupes de Lie qui s'appelle les groupes de Lie semi-simples, qui sont associés à des objets combinatoires qui s'appellent les systèmes de racines et les graphes de Dynkin. Et ça, c'est, quand on parle de ça, on est tout à fait dans la combinatoire.
Ouais. Et il semble même qu'il ait établi les prémices de la notion de groupe, Monsieur Euler.
Oui, là, il a, enfin, certains de ses travaux, effectivement, c'était des idées qui étaient prégnantes, puisqu'il y a eu Euler, puis ensuite il y a eu Lagrange, et puis c'est au fond avec Évariste Galois, donc un siècle plus tard, que l'idée est arrivée à maturité.
C'est le triomphe avec Galois, enfin, en tout cas, c'est le grand. Mais il a eu une très, très grande correspondance avec Lagrange, je ne me trompe pas.
Oui, Euler, c'était Lagrange venait de Turin, disons, c'était de famille française. Et il était beaucoup plus jeune que Euler, mais ils ont eu une correspondance très suivie. Et d'ailleurs, Euler, quand il a voulu quitter Berlin, le roi ne voulait absolument pas. Il était très fâché. Et donc, Lagrange a succédé, a pris la présidence de l'Académie de Berlin. Et donc, il était dans l'esprit de Euler. C'est-à-dire qu'au début, Newton, il y avait plein de figures partout. La mécanique céleste, c'était de la géométrie, les dérivés, tout ça. Et petit à petit, on a éliminé toutes les figures. Et donc Lagrange, son traité de mécanique analytique, il se vantait d'avoir plus aucune figure qui brouille l'intuition. Et ils étaient très liés. Ensuite, Lagrange est revenu à Paris et Lagrange disait, mais c'est notre maître, lisez Euler, tout est clair, les exemples sont simples, c'est très fourni et il faut remonter aux sources. Donc déjà au début du 19e, dans les années 1810-1820, Euler était considéré comme le source, le grand prince de cette époque-là.
D'ailleurs, son traducteur en anglais pour l'un des traités de mathématiques dit exactement la même chose. En particulier, la notation est claire, les structures sont apparentes, les schémas de déduction sont absolument lumineux. Enfin,
donc... C'était un très grand pédagogue, Euler. Unique. Il était pédagogue pour tout le 19e siècle. Après lui, ses livres ont été lus et relus, même à Boston, 50 ans plus tard, les cours élémentaires d'analyse, de calcul, c'était enseigné selon Euler. Et il était très clair, ses articles aussi. À cette époque-là, souvent, les gens cachaient leurs résultats. Il n'y avait pas encore des publications comme maintenant. Et donc, chacun à ses pieds cachait ses résultats. Surtout, il ne fallait pas montrer ses sources. Euler ouvrait tout. Il vous donnait tout, même il donnait. Et dès que quelqu'un dit « Ah, mais moi, j'ai trouvé ça avant vous !» Non, tout de suite, il disait « D'accord, c'est votre découverte !» C'était un homme humble. C'est ça qui est extraordinaire. C'était qu'il n'avait pas d'ego du tout. Il avait une profusion d'articles tellement gigantesques qu'il était prêt à donner. Et même il conduisait dans un article de recherche. Il dit voilà ce que j'ai fait. Peut-être quelqu'un d'autre va finir le travail. Il était magnifique. C'était vraiment de lire Euler. C'est un bain de fraîcheur. Là, c'est de la modestie.
On ne va pas arrêter, on va continuer notre admiration, parce qu'effectivement, donc, deux voies tout à fait parallèles et permanentes, des travaux originaux. Et le temps de faire des manuels.
De 40, enfin un livre en tout, mais des beaux manuels. Et, et en plus, le temps d'avoir des enfants. Il a eu 13 enfants. Bon, 8 sont morts en bas âge, mais il en a eu 5 qui sont devenus adultes.
Et combien de matheux?
Le fils aîné était mathématicien, devenu académicien, et c'était un des disciples du père aussi. Le deuxième est devenu était médecin, mais il faisait aussi des mathématiques. Et bon, il était soucieux de ses enfants. Quand son fils a passé un examen en Allemagne de médecine, il est allé vivre avec lui pour le soutenir, parce que c'était la guerre de Silésie. Donc, il ne faut pas oublier que c'était le temps de la guerre. Sa maison à Berlin était saccagée par les Russes. Et quand le général a appris à qui appartenait la maison, l'air d'être connu, immédiatement, il était indemnisé. Il était très connu, même des militaires. Ensuite, l'impératrice l'a réindemnisé. Donc, c'était un personnage très, très connu dans toute l'Europe pour sa pédagogie, ses livres pédagogiques.
Il était bon, donc, aussi. Hein, il a cette caractéristique. Vous avez dit qu'il n'était pas dans la vanité d'auteur, si on peut dire.
Tout à fait.
Mais il était bon en particulier. Il y a cet exemple. On donne cet exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez tout sur,
non,
sur le
tellement...
monsieur Xavier.
Non, c'est pas possible. Il y a 40 000 pages. C'est pas possible. J'en ai feuilleté à toute vitesse quelques-unes.
Mais
c'est impossible.
Je suis obligé de feuilleter à mon tour, faire un peu de bruit, parce que j'ai découvert ce numéro magnifique de Tangente, qui est consacré à Euler.
Il y a un numéro spécial pour le tricentenaire
de vulgarisation.
J'ajoute Tangente est partenaire de la série de conférences.
Ah, d'accord. La série de conférences, encore une fois, de la BNF. Alors, j'ai fait des bruits de page, qui est totalement prohibé. Et donc, pour ce qui était de sa bonté, il a aidé de façon très importante. Un jour, alors quelqu'un qui voulait entreprendre des études de sciences, et puis à la mort de son père, il a fallu qu'il abandonne ce projet, et il est devenu chapelier. Et il a décidé un jour d'aller frapper à la porte de l'air en lui disant « Voilà, je me suis arrêté dans mes études et j'ai pas un rond. » Et l'air l'a pris, il lui a trouvé une chambre, lui a donné une petite bourse, lui a expliqué des maths. Il a eu même la gentillesse de lui donner le manuscrit d'un manuel qui n'était pas terminé. Et c'est devenu un bon matheux. C'est étonnant.
C'est étonnant, je ne connaissais pas cette histoire.
Alors lisez Tangente et vous verrez qu'on y apprend ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié quelque chose quand même? Avant de passer à nouveau à cette conjecture.
Je vais peut-être, moi, dire quelque chose.
Dites, Marc-André, dites.
Vulgariser les mathématiques, faire des conférences pour vraiment un grand public, c'est extrêmement difficile. Une des manières de franchir le mur, l'obstacle, il y a un obstacle psychologique, c'est de parler des mathématiciens. Ils suscitent, des gens comme Euler, suscitent une admiration immédiate. Ce sont des grands hommes, manifestement. Et quand tout à coup, on se rend compte que les mathématiques ont ceci d'humain, qu'elles ont été produites par des êtres humains, des êtres admirables, ça crée un pont vers le public qui marche très bien. Et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles le cycle de conférences marche bien, c'est oui. Qu'on parle des auteurs, des créateurs.
Si je peux me placer du point de vue, de notre point de vue professionnel, je ne sais pas si les chroniqueuses me contrediront, mais les mathématiques sont extrêmement difficiles à vulgariser aussi, pour une raison essentielle, c'est qu'on ne peut pas métaphoriser les mathématiques. Soit on les pratique comme on peut, jusqu'où on peut, alors qu'on peut toujours dire à l'intérieur du noyau de l'atome, c'est une sorte d'emboîtement de poupées russes, et vous allez trouver des quarks, et puis des quarks, ainsi de suite. Il y a des manières de métaphoriser des objets physiques. Métaphoriser des objets de maths, non. Soit on les prend, soit on peut comprendre, soit on a en tête et en main et sous le crayon le théorème de Pythagore, soit rien du tout. On peut faire une métaphore.
Il y a un retour à la géométrie, il y a un retour aux figures. Justement, on peut... Oui. On peut maintenant mieux vulgariser les sciences, comme la semaine dernière, nous l'avions fait à cette conférence grand public, c'est que on peut montrer, il y a des figures, on peut une figure qui se transforme en une autre, et ceci n'est que le reflet, en fait, on est dans les objets mathématiques qu'un enfant pourrait comprendre. Moi-même, j'ai fait des expériences à l'école primaire. J'ai essayé de mettre à l'école primaire, de faire manipuler, on peut faire manipuler les enfants avec des choses, et ces choses, en fait, sont le reflet de manipulation entre figures, et qui sont le reflet en fait, de calculs profonds, c'est-à-dire ces calculs pour lesquels Lagrange, on avait éliminé toutes les figures, maintenant elles réapparaissent, mais à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on peut faire des sommes de figures. Et par exemple, c'est Feynman, un célèbre prix Nobel, ces fameux diagrammes de Feynman. Maintenant, c'est
Richard
de son prénom. On les somme, on les ajoute, on fait des calculs sur les figures, et ceci, c'est égal à des arbres. Il y a des arbres qui apparaissent dans les... Au fond, dans les grains de lumière, il y a des arbres. Et puis dans la théorie d'Einstein, où on essaye de faire la gravitation quantique, l'univers, il y a des théories qui font apparaître les nombres de Catalan. Dans la théorie des cordes, il y a une identité qu'on ne sait pas expliquer. Les arbres réapparaissent. Une autre façon, puis les arbres, on les multiplie entre eux comme on multiplierait 1 plus x que multiplie 2 égale... on multiplie ces figures entre elles, c'est un autre niveau, disons, et c'est l'intérêt aussi de relire les textes anciens, c'est que ces textes anciens sont réincorporés dans une autre théorie plus vaste. Les théories mathématiques, c'est des êtres vivants, elles se refusionnent, elles se changent, c'est aussi l'intérêt de rebondir, et pour moi-même, j'ai appris des choses en lisant Euler qui peut-être vont me donner une nouvelle découverte sur la théorie du contrôle, par exemple, des théories modernes, et en relisant dedans, donc finalement, les grands maîtres se parle à travers les siècles. Hein, d'un siècle à l'autre...
Belle formule.
Ça... Hein, j'ai mon bon maître, Marcel-Paul Sonneberger, un des grands, le pionnier, le créateur, disons, de cette façon moderne de voir la combinatoire en France. J'ai montré une photo dans laquelle la fonction qu'il a, c'est la même que l'air faisait. Mais on a une autre façon de l'aborder, vous voyez. C'est quelque chose, le même sommet, la même montagne, on peut l'aborder par différentes faces. L'air faisait peut-être les faces sud, maintenant on attaque les faces nord et tout, et à un moment vous apercevez tout d'un coup, en faisant une autre voie dans votre montagne, à l'horizon, une autre chaîne de montagnes, totalement vierge. Et comme ça, il y a des grandes théories, comme cette formule-là je reviens à l'aide de l'air en catalan, il y avait des triangulations, comment on peut trianguler des polygones, et ben c'est à partir de là que toute une théorie, une nouvelle théorie est née, mathématique, on n'avait jamais pensé avant. C'est l'algèbre à grappes et c'est...
Donc, vous voyez, c'est de l'algèbre à grappes.
Les algèbres
on à grappes. Cluster algèbre.
Il faut quand même défendre le français, je mets grappes l'algèbre, enfin, c'est cluster algèbre. Mais des nouvelles théories apparaissent qu'on n'avait jamais pensé avant. Oui, c'est un jardin fabuleux, c'est merveilleux les mathématiques. C'est pas. Quand on arrive au sommet d'une montagne, tout d'un coup on découvre une nouvelle chaîne et puis qui va se réincorporer aux anciennes. C'est-à-dire que les théories des Grecs, les théories des Lères sont toujours vraies. Il n'y a pas de contradiction, mais elles s'englobent. C'est comme Newton, on peut dire, bon, il a tout faux. Einstein, il a montré qu'il n'y a pas de force, c'est, l'espace-temps était courbe, que les attractions c'était. Mais non, mais il s'incorpore comme cas limite. Donc les théories s'englobent les unes dans les autres. Des fois, il y a des confrontations, il y a des conflits entre scientifiques, et tout d'un coup, tout est résolu. Comme le conflit, est-ce que la lumière, c'est des grains de lumière? Est-ce que c'est des petits grains? Est-ce que c'est des vibrations? C'est les deux à la fois. C'est difficile à comprendre. Hein?
Xavier Viennot, j'ai envie de reprendre ce que vous venez de dire de façon si enthousiaste. Les mathématiques avancent, on a le sentiment parfois qu'il y a des domaines spéciaux, au sens où on parle de mathématiques spéciales. Et puis, quelqu'un de très fort qui va arriver et qui d'un seul coup va conjoindre par une généralisation supérieure ces deux domaines qui semblaient séparés. Est-ce que ça c'est un grand mouvement, là encore une fois pour faire comprendre comment se fait le développement des mathématiques, est-ce que c'est un grand mouvement qui assure le développement des mathématiques? Vous pouvez répondre, Martin Andler aussi.
Il y a certainement ces épisodes de convergence qui sont tout à fait étonnants, et en effet, là, ce sont souvent des très grands mathématiciens qui aperçoivent des liens qui existent entre des théories qui sont a priori assez différentes. Ça, c'est incontestable.
Oui. Vous avez un exemple historique. Enfin, on peut penser à quoi? C'est une colle.
C'est une colle, mais enfin bon, il y a une théorie ancienne qui est la théorie des formes modulaires. Là, on entre dans des choses qui sont très techniques. Les formes modulaires, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel a travaillé Ramanujan, le très grand mathématicien indien. On sait maintenant qu'il y a un lien extrêmement fort entre les formes modulaires et les formes automorphes, qui en sont une généralisation, et la théorie des représentations des groupes de Lie semi-simples. Et ça, c'est quelque chose qui a été l'objet, enfin qui fait l'objet maintenant de recherches extrêmement difficiles à expliquer. Là, la vulgarisation serait très compliquée. Et une des personnes qui a joué un rôle décisif dans cette évolution, c'est un mathématicien canadien qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Robert Langlands, et qui a fait ce pas et qui a défini un programme de recherche qui est un programme de recherche actuel et probablement pour plusieurs dizaines d'années.
Cher à Laforgue,
l'un des
derniers médaillés fil français, et qui donc s'est mis dans cette voie-là, en tout cas. Vous avez un autre exemple, Xavier Viennot,
dans mon propre domaine, pour revenir plus récemment, en physique, disons, il y a tout d'un coup une coïncidence qui est apparue, en physique quantique, à ce qu'on appelle les chaînes de spin, là, c'est lié à la supraconductivité, et les physiciens ont fait des calculs, et dans ces calculs, les nombres entiers apparaissent. Il y a un nombre de Catalans qui arrivent, et la somme de ces nombres entiers, eh bien, c'est d'autres nombres. Ce sont les matrices à signes alternants que nous, ça fait 25 ans qu'on est dessus, qu'il y a plein de choses, il y a toute une chaîne de montagnes à découvrir, et que les mêmes nombres réapparaissent en physique quantique Personne ne sait pourquoi. Il y a beaucoup de progrès qu'on fait. Ça fait 6 ans qu'on est dessus. Les physiciens du monde entier commencent à s'acharner là-dessus. Nous aussi en combinatoire. Ça s'appelle maintenant un nouveau domaine en train d'émerger. La physique combinatoire. Ouais, c'est... Il y a des colloques, il y a des sommets spéciaux. Il y a la science et moi. Et c'est leur rencontre entre des préoccupations de physiciens. Ils ont leur langage, leur façon, leur communauté. Nous, on a une autre façon. Et la rencontre des deux, on a les mêmes nombres. Les mêmes nombres entiers, comme 1, 2, 5, 14, 42. Là, c'est d'autres nombres qui sont très riches. Et derrière ça, il y a un monde entier à découvrir. C'est un peu comme dans le désert, des pyramides qui pointent. Vous grattez le sable, il y en a d'autres. Et puis, toute une cité interdite à découvrir.
C'est votre métaphore. La vallée, la montagne, le désert, c'est géographique.
C'est géographique.
C'est géologique.
On remonte des rivières, on va dans
l'air. Du coup, on a du mal à ne pas penser que les objets mathématiques ont une existence qui est indépendante de notre esprit.
Vous êtes franc réaliste.
Exactement.
Moi, je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont là comme Alain Kuhn. Je pense qu'ils sont là. Oui. On a l'impression de les définir, de faire une œuvre d'art, de les découvrir. C'est moi qui ai créé ça. Puis après, non. Non, ils étaient là avant, au fur et à mesure. C'est tellement merveilleux, les choses. Et ils étaient là. Et peut-être ce monde que l'on parle, c'est celui-là qui est illusoire. Et la réalité est derrière, cachée.
Ou une autre dimension du monde.
Une autre dimension, mais
c'est la
belle.
Formule d'Alain Kohn, en tout cas, dans son réalisme.
Oui,
c'est une autre dimension de monde.
Une autre dimension.
Et où là, tout est organisé.
Avec une
prégnance, évidemment, puisque tout est
sublime. C'est un peu comme c'est un peu comme lire du Mozart. Imaginez que vous ne pouviez pas entendre. Il y a juste, vous lisez le solfège et vous entendez la musique. C'est ça le grand problème des mathématiques, c'est que. On n'a que le solfège et le grand public ne peut pas entendre. Il faut être très éduqué.
Alors, avant de revenir à la conjecture de Colmar, je n'arrive pas à trouver quelque chose de triste qui pourrait nous faire un petit peu pleurer, tellement votre enthousiasme est confondant. Alors, tout entier pair supérieur à 2 peut s'inscrire comme somme de 2 nombres premiers. Et toc.
Oui, c'est toc. Donc, c'est une conjecture. C'est-à-dire une proposition, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, un nombre premier, c'est quoi? C'est le 12 n'est pas un nombre premier. Hein, il se... factorise, c'est 3 fois 4. 7, c'est un nombre premier. On ne peut pas le écrire comme produit de 2 autres nombres autres qu'un lui-même. Et 12, c'est 5 plus 7. 12, c'est un entier pair, on peut diviser par 2, et la somme de 2 nombres premiers, 5 et 7. Et la conjecture de Colbar dit que ceci, c'est vrai pour tout nombre pair. Et Euler, il a testé, il a essayé.
Il a été jusqu'à 2005.
Jusqu'à 2005.
Et sans faire le cuistre, à lire attentivement le numéro de tangente, un mathématicien allemand s'est rendu compte que dans les nombres qu'il a proposés, qui sont 1900, je ne me souviens plus, le grand Euler s'était trompé.
C'est pas grave, il y a beaucoup de trous dans son avis. Il est tellement enthousiaste. Tout le monde fait des erreurs.
Il n'y a pas beaucoup d'erreurs.
Mais il faisait à la main les calculs. Bon, maintenant, on a les ordinateurs. On peut tester les conjectures jusqu'à 1 milliard, etc. etc.
Et oui.
Cette conjecture, c'est un peu comme Fermat. C'est quelque chose... Fermat est beaucoup plus célèbre. Hein. C'est 350 ans, le fameux théorème de Fermat qui a été démontré récemment. Quoi. C'est un peu du même genre, mais Goldbach, bon, c'est toujours ouvert, la conjecture.
Et d'ailleurs, le chiffre est imposant avec un ordinateur, puisqu'on est arrivé, là encore, à lire toujours tangente, décidément, quelle pub. On a été jusqu'à 4 qui multiplient 10 puissance 14, ce qui est quand même pas mal. Ça commence à être impressionnant. Alors, on peut parler, juste pour finir, parce que le temps tourne très très vite, du dispositif que vous avez adopté la semaine dernière. Donc, vous étiez là, en maître de cérémonie, on peut dire, Xavier Viennot, que vous étiez accompagné d'une conteuse qui donc donnait des éléments biographiques, vous cantonnant vous plutôt aux aspects mathématiques, et une violoniste professionnelle et un scientifique informaticien, je crois.
Gérard Duchamp, oui.
Voilà, et qui lui jouait du violon.
Voilà. Non, j'avais pensé, justement, il y a tellement de choses à expliquer qu'on ne peut pas, donc, de passer à un autre niveau dans lequel les violons, justement, accompagnent ces correspondances entre ces figures. Et d'autre part, pour la partie physique, mécanique, quantique, etc., c'est tellement compliqué que j'ai pensé qu'un texte créé par cette conteuse Marcia Pilgagos, un texte cosmique, au fond, sur un fond de ciel étoilé, avec une belle musique, permettrait d'adoucir ou de résumer, au fond, toutes les cordes qui vibrent, les trous noirs, les particules de lumière. Et comme j'ai l'habitude de parler vite et d'être enthousiaste, donc ça permet à l'auditeur, aux auditoires aussi, de ces morceaux de violon, de souffler un peu, de réfléchir à ce qui était dit.
Comme nous mettons des pauses musicales pour que les auditeurs se reposent.
Et ces morceaux aussi, c'était accompagner chaque pays, Berlin, etc., Saint-Pétersbourg, c'est des musiques de chaque pays, pour honorer Euler.
Alors, il me reste à vous remercier, Xavier Viennot, et à vous demander, Martin Handler, de faire l'annonce officielle de la prochaine conférence.
Alors, la prochaine conférence, la dernière du cycle 2007, c'est Nicole El-Khaoui, le mercredi 23 mai.
Mercredi 23 mai.
Sur le titre, c'est « De la théorie de la spéculation aux mathématiques de l'aléatoire, un aller-retour ». Et ça part d'un article d'un mathématicien français, bachelier, sur la théorie de la spéculation 1900. Alors, c'est très spectaculaire pour deux raisons. Première raison, c'est que ça préfigure avec 5 ans d'avance les travaux d'Einstein sur le mouvement brownien.
Tiens.
Deuxième chose très spectaculaire, c'est que ce sont ces idées-là qui aujourd'hui gouvernent une partie du fonctionnement des marchés financiers.
Ariane Poulantzas, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Azar Kaladbari, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous commencez par des livres aujourd'hui, pas de brève, hein, c'est plutôt un livre.
Oui, c'est plutôt un livre, c'est un livre important, intéressant. Alors c'est le livre de James Lovelock, La revanche de Gaïa, pourquoi la Terre riposte-t-elle, aux éditions Flammarion, Nouvelle Bibliothèque Scientifique. Alors ce livre est intéressant par deux aspects. D'abord, par son contenu, par ce qu'il dit et par comment il le dit. Alors, en fait, pour moi, c'est bien sûr Lovelock, on le connaît. Il a été extrêmement connu dans les années 70.
C'est l'hypothèse
lui,
Gaïa, justement.
Voilà, c'est lui qui est à l'origine de l'hypothèse Gaïa. Le fait que la Terre se comporte comme un être vivant, qu'il répond comme un être vivant, qu'elle est capable d'autorégulation. Et donc cette hypothèse Gaïa, à l'époque, a suscité énormément de débats et d'opposition dans le milieu scientifique. Il faut dire que Lovelock était en fait en avance sur ce concept d'interaction dans l'environnement. Aujourd'hui, on sait bien sûr que l'environnement est à la fois des éléments séparés, mais c'est surtout l'interaction et l'interface de ces éléments qui sont importants. Et c'est là où se passent les réactions et les réactions physico-chimiques qui gouvernent en fait à la fois l'atmosphère, l'océan et le vivant. Donc il a été à l'origine de ce concept de géobiologie qui était bien avant l'époque où les scientifiques se sont vraiment intéressés.
Avant-gardiste.
Avant-gardiste.
Alors qu'il était très décrié en disant.
Voilà, il était extrêmement
il
décrié. Alors je fais tout de suite un point sur l'aspect plus épistémologique, c'est le poids des métaphores. En fait, ce concept d'être vivant Gaïa a donné naissance à toute une idéologie, New Age, des gens qui ont utilisé ce concept pour finalement développer des tas d'autres idées un peu non scientifiques. Et c'est juste le fait de souligner comment les métaphores peuvent trahir le discours scientifique. Ensuite, aujourd'hui, Lovelock a énormément évolué, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi décrié, puisqu'il prend position pour le nucléaire. Son propos, c'est nous sommes plus du tout au développement durable, il faut absolument que l'on avance et il faut développer le nucléaire. Il est contre les biocarburants, il est contre l'agriculture bio. Et là aussi, il a un propos extrêmement moralisateur. C'est, déjà dans le titre, c'est « Pourquoi la Terre riposte-t-elle ? » La question du « pourquoi » n'est pas une question scientifique, c'est la question du « comment » qui est une question scientifique. Oui, comment la Terre riposte-t-elle ? On peut évoquer les mécanismes qui sont à l'origine de la réponse de l'atmosphère, de l'océan à l'augmentation de l'effet de serre. Mais la question du pourquoi, en fait, l'emmène dans un débat totalement moralisateur, dans le sens où nous devons aujourd'hui payer pour nos fautes passées. Donc c'est à la fois l'aspect, le contenu est intéressant puisque les aspects qu'il développe en fait sont faits de façon très didactique, mais il y a toujours l'aspect métaphorique qui prend le dessus et l'aspect moralisateur, je pense qu'il va continuer à se faire, comme on dit, allumer, à la fois par la communauté scientifique et par les écologistes.
Oui, parce que certains, en plus de certains de ces, des adeptes, on va dire, et en particulier pour la défense des espèces, constatant que nous sommes l'espèce prédatrice universelle et au sommet de l'échelle, ne souhaitent rien moins que la disparition de l'homme, pour que Gaïa, par contre-coup, retrouve toutes ses chances pour se régénérer.
Voilà, c'est sauver, en fait, le système Gaïa, peut-être parfois au détriment de l'espèce humaine.
Oui, dans son intégralité. Alors, Ariane Poulanzas, ouvrage aussi.
Ouvrage. Alors, ce n'est pas la revanche de Gaïa, c'est la revanche du chromosome X. On est dans les revanches. Le sous-titre, c'est « Enquête sur les origines et le devenir du féminin ». C'est de Olivier Postelvinet et c'est chez Lattès. Alors, Olivier Postelvinet, Stéphane, vous le connaissez bien, est un grand journaliste. Et
vulgarisateur scientifique, lui aussi.
Vulgarisateur scientifique. Et ce livre, aurait pu s'appeler « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la différence des sexes » sans jamais oser le demander. Alors pourquoi est-ce qu'on n'ose jamais le demander ? Parce que c'est une question particulièrement sensible. C'est une question sensible parce que les préjugés sont là, et non seulement les préjugés, mais l'idéologie est toujours assez près derrière. Et ça, Olivier Postelvinet le mentionne effectivement. Donc, et les préjugés et l'idéologie sont deux obstacles conséquents à une étude scientifique objective. Alors, en ce qui concerne l'idéologie, sur la question de la différence entre les hommes et les femmes, il y a effectivement les tenants du tout biologique et les tenants du tout culturel. Que les hommes et les femmes soient différents dans leur comportement, personne n'en doute, reste à expliquer l'origine de cette différence. Alors ici, la démarche est volontairement naturaliste. C'est un livre donc d'un journaliste confirmé qui fait le point, alors non pas seulement sur les différences qui existent entre les hommes et les femmes, mais sur les différences qui existent de manière générale entre les mâles et les femelles, et même entre le chromosome X et le chromosome Y. Donc toute la première partie du livre est sur la reproduction sexuée dans le vivant, de manière générale, et donc sur la différence entre le chromosome X et le chromosome Y. La deuxième partie du livre est sur la différence comportementale entre les hommes et les femmes. Et la troisième partie est sur la domination masculine chez les mammifères. Alors, chacune des parties, on peut dire, est très, très intéressante en soi. Mais moi, je suis un peu gênée par cette juxtaposition des trois parties. Cette juxtaposition me met mal à l'aise parce que ça insère justement la dimension humaine dans une dimension totalement animale. Alors, il ne s'agit pas du tout pour moi de contester la dimension animale de l'humain, mais le fait que ce que fait Olivier Postelvinet pour conclure son livre, il fait un détour par le monde animal pour statuer sur l'évolution du devenir de la femme dans nos sociétés humaines. Ce détour me gêne un petit peu, et c'est des raisonnements qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, à la fois dans la sociobiologie que dans la psychologie évolutionniste. Alors la psychologie évolutionniste, pour le dire très, très rapidement, c'est la théorie qui consiste à dire que les comportements humains sont déterminés génétiquement, et que d'une part ils sont déterminés génétiquement, que d'autre part ils ont été sélectionnés par leur avantage évolutif qu'il constituait. Donc là, Olivier Postelvinet parle de toutes les études qui sont faites et qui consistent à déterminer la différence des comportements et les différences cognitives entre les hommes et les femmes, avec l'arrière-fond d'une justification biologique et évolutionniste. Alors, comme effectivement ces questions sont très idéologiques, je ne vais pas contester Olivier Postel-Vinet sur un plan scientifique, parce que je serais taxée d'idéologique. Alors effectivement, je suis peut-être idéologue en ce qui concerne ce livre. J'espère juste que les démonstrations qui sont faites dans ce livre ou que les expériences qui sont rapportées on va trouver qu'elles sont fausses et que ces études sont biaisées. Alors j'en dis quelques-unes qui me semblent particulièrement amusantes. Alors justement, en ce qui concerne les mathématiques, nos deux invités sont dans les mathématiques, ils ont dû constater qu'il y avait beaucoup moins de filles que de garçons, surtout quand on s'élevait dans les études. Alors la raison est la suivante, c'est que c'est grâce à la testostérone que vous produisez que vous êtes aussi fort en mathématiques, en calcul mental, mais aussi en représentation spatiale. On a fait des expériences, quand on injecte de la testostérone aux filles, figurez-vous qu'elles deviennent tout d'un coup très très bonnes en mathématiques. Or, les capacités verbales sont inversement proportionnelles aux capacités mathématiques. Et donc, Olivier Postel-Vinet rapporte par exemple une étude où, selon le cycle menstruel de la femme, selon qu'elle est en période ovulatoire ou au moment des règles, elle est meilleure en maths ou meilleure en parole. Donc vous aurez tous deviné effectivement dans quelle période de mon cycle je me situe. Voilà, donc ce genre d'études sont... et puis je vous dis juste une petite chose, falloir finir. Oui. Donc pourquoi y a-t-il plus de génie homme que de génie femme? Alors on a fait beaucoup d'études, le QI est en moyenne est le même chez les hommes et chez les femmes. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les femmes se situent dans la moyenne et qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont un QI très élevé et d'hommes en même temps qui sont débiles. Donc il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui sont géniales, mais que les femmes se rassurent.
Géniaux.
Non, j'ai dit de femmes qui sont géniales.
Ah, pardon,
les femmes, non, seraient géniales. D'accord. Mais que les femmes se rassurent, il y en a moins qui sont débiles mentales. Mais tout ça, preuve à l'appui avec imagerie cérébrale et taux de testostérone sanguin à l'appui.
Je me permettrai de dire simplement, parce que j'ai toujours été relu à la loupe par Olivier Postel-Vinet, qui est un relecteur, d'articles remarquables et avec un grand sens critique, que moi je regarde son livre à la loupe aussi, j'ai pas été jusqu'à la fin malheureusement, mais simplement un petit mot pour dire en tout cas que généralement ces enquêtes sont de bonne qualité, assez exhaustives, et que la psychologie évolutionniste malgré tout, parce que là vous avez cité ce qui fait votre beurre Ariane dans ce cas là hein, mais c'est de vraiment rappeler le fondement de l'animalité en nous et qu'on découvre, il n'y a pas que la préoccupation de savoir si les hommes ou les femmes ont une différence pour comprendre les mathématiques. Il y a beaucoup d'autres choses. On s'est rendu compte qu'il y avait par exemple des préférences symétriques qui montraient qu'on était un peu dans la même attitude que la sélection sexuelle qu'on retrouve chez les oiseaux, ainsi de suite. Donc je défendrai non pas le livre d'Olivier Postel-Vinet,
il faudrait faire une émission sur la psychologie évolutionniste. C'est un vaste débat,
certes. En tout cas, merci à vous, Ariane. Merci, Hasard. C'était Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Frédéric Potry, Catherine Madure, Catherine Donnet, Brigitte Aléo, Stéphane Delisgorges. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, reportez-vous au site internet franceculture.com, émission Continent Science. Continent Science est aussi balado diffusé. Vous avez donc la possibilité de nous enregistrer sur votre baladeur.